Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Simon Dutin, Julien Beneteau, Jérôme Pinault et Ladji Doucouré ce matin dans les GG du sport. On file tout de suite à Lévis en Finlande, au pays du Père Noël, pour le slalom masculin. Le premier de la saison, c'est du ski alpin. Léna Marjac est sur place avec notre champion olympique en titre, Clément Noël, qui s'élance sur la piste. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde, oui c'est parti, c'est le grand lancement, c'est le grand début de saison pour nos slalomeurs français avec cet homme qu'on ne présente plus, Clément Noël, 4 victoires la saison dernière, champion olympique effectivement en titre et il est tenant du titre aussi ici à Lévis, c'est une piste qu'il apprécie et pour l'instant il a 8 petits centièmes d'avance sur le brésilien Lucas Pinheiro-Broten. Clément Noël aime cette piste-là dans des conditions aujourd'hui parfaites, le ciel est dégagé, il fait aussi très froid, moins 17 degrés aujourd'hui à Lévis en Finlande et on...
Ah, on a perdu Léna sur cette
Rennes va plus.
Chance, Rennes ne va plus. Je rappelle qu'on gagne un Rennes hein, lorsque l'on s'impose.
C'est pour ça que Noël a envie de gagner là-bas.
À Lévis.
C'est
bah oui, bah là tout est fait. Mais en tout cas, Clément Noël pour l'instant, premier intermédiaire, on l'a dit, il est devant le Français pour l'instant face au Brésilien. On va retrouver Léna dans quelques instants. Mais c'est vrai que c'est important pour le début de cette saison pour le Français là, qui a commis une petite faute hein, sur la deuxième partie du mur finlandais. Il est bien derrière désormais 32 centièmes derrière pour Clément Noël dans les derniers piquets. Allez, il faut envoyer gros là sur le final pour le Français. C'est la première manche, je le rappelle. Il va être deuxième à 4 dixièmes du Brésilien Braten. Deuxième, a priori, sera au rendez-vous tout à l'heure de la deuxième manche. Évidemment, à 13h, on va retrouver Léna.
J'espère.
Tout à l'heure, ouais. À Lévis.
Eh oui. Manette. On va s'arrêter là.
Je rappelle que la page blanche d'ailleurs sur RMC est à suivre dès 15h avec évidemment toutes les équipes pour RMC Radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina. Donc tous les dimanches désormais à partir de 15h vous aurez toutes les informations sur les sports de neige. Événement sur RMC, on vous offre 120 000 euros, la plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC, à gagner 120 000 euros pour vous, 20 000 euros pour la personne de votre choix. Alors restez bien à l'écoute sur RMC, ça peut tomber à tout moment. Rendez-vous d'ici la fin de l'émission pour vous inscrire. Restez bien à l'écoute. Dans un instant, on va parler de Novak Djokovic qui a fait une grosse punchline sur Yannick Sinner. Est-il sali à tout jamais après sa suspension? On va en parler. Mais d'abord, est-ce qu'on ne devrait pas célébrer Didier Deschamps avant sa dernière Coupe du Monde?
RMC, le ring des GG.
La frappe de Lisée, elle a vu pour l'équipe de France. Michael Olysee avec son pied gauche.
Le poids du maillot, tout ça, entre vouloir y être et y être, c'était les Ukrainiens qui ont joué ces jeux.
Et c'est terminé. L'équipe de France entame parfaitement sa phase de qualif pour la Coupe du Monde.
La chose la plus importante pour que la fête soit vraiment mal.
C'est terminé sur ce match nul de partout entre la France et l'Islande. Match à rebondissement.
Frustration, je sais pas si c'est de la frustration, même si c'est l'adversaire qui l'a manqué, mais.
Ekitike va écarter côté droit vers Kylian Mbappé, le but, la frappe, Hugo Ekitike, le but.
Les mêmes incertitudes ou les mêmes discussions.
L'équipe de France l'été prochain verra la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est fait, c'est dans la poche. Le billet est validé, composté. Les Bleus seront à la Coupe du Monde. Didier Deschamps est toujours le maître des qualifs.
Je suis épanoui dans ma fonction de sélectionneur.
Didier Deschamps n'aura raté aucune qualification à un grand tournoi avec les Bleus depuis son entrée en fonction comme sélectionneur en 2012. Et avant son dernier grand défi sur le banc français l'été prochain, je rappelle Azerbaïdjan-France à Bakou à 18h à suivre sur RMC aujourd'hui. Les Bleus ont déjà leur qualif en poche pour la Coupe du Monde, RMC radio officielle d'ailleurs de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Quatrième qualification consécutive au Mondial pour Deschamps, la France finira première de son groupe. Le bilan pour l'instant 4 victoires et un nul. Le sélectionneur des Bleus avait la volonté de réoxygéner son groupe après le dernier Euro. Et ça se passe plutôt pas mal pour lui. Les GG, je vous pose la question. Deschamps a-t-il tout réussi sur ses qualifs? Vous êtes trois à me dire oui. Ladji, Jérôme et Julien, vous êtes deux à me dire non. Simon et Jean-Louis Tour, qu'on va rejoindre dans quelques instants sur le compte XDGG du sport, vous dites oui à 56%. Vous êtes plutôt d'accord avec Ladji, Jérôme et Julien. 32-16 pour participer. Le WhatsApp 06-12-424-424 pour participer. Jean-Louis Tour est en Azerbaïdjan pour RMC. Salut Jean-Louis.
Salut les GG du
Sud. Salut Jean-Louis.
Salut Jean-Louis.
On va vivre. Bonjour maître Tour. On va suivre avec toi ce soir évidemment le match à 18h hein, entre l'Azerbaïdjan et la France. Tu as suivi toute la campagne de Deschamps là, avec les Bleus, Jean-Louis. C'était parfait pour toi?
Quasiment. Presque parfait. Allez, à 90%, on va dire. Parce que le principal est là. Il y a la qualif, sans trembler, avec un dernier match pour du beurre tout à l'heure. Donc ça, c'est un luxe qu'il faut pas négliger. En plus de ça, dans cette campagne de qualif, il y a des individualités qui ont pu émerger. On peut penser à Michael Olise, qui est incontournable, qui semble incontournable dans le secteur offensif désormais. Manu Koné aussi, au milieu de terrain, a marqué beaucoup de points. On peut ajouter à cela que Deschamps a réussi en un an à faire de Mbappé un véritable capitaine, leader dans l'attitude, en plus de ses qualités de buteur, puisqu'il a fait défiler le compteur. Et pourquoi je dis 90%? Les 10% qui me manquent, c'est sur le jeu. Et honnêtement, j'avais arrêté de fonder des espoirs là-dessus avec Didier Deschamps, mais en juin dernier, bah, il est arrivé à grand coup de discours, les quatre attaquants, des promesses sur le pressing, un jeu un peu plus entraînant. Donc il y avait un certain espoir, notamment en septembre dernier, sur une dernière saison de Didier Deschamps un peu plus flamboyante. On n'a pas trop vu ça quand même sur les qualifs. Une bonne mi-temps en Pologne contre l'Ukraine, une bonne mi-temps au Parc des Princes jeudi dernier encore contre l'Ukraine, mais c'est assez peu. Même si, et il faut aussi le dire pour être honnête, il y a eu beaucoup de blessures en circonstances atténuantes.
Et il y a eu beaucoup de blessures, effectivement. On rappelle que Mbappé est préservé, hein, n'est pas en Azerbaïdjan pour ce dernier match. Jean-Louis, tu restes avec nous, forfait officiellement.
Il y a mal à la cheville.
Effectivement, on a beaucoup parlé hier. Jérôme Deschamps a tout réussi sur ses qualifs, t'es d'accord avec ce qui a été les arguments pour de Jean-Louis donnés il y a quelques instants?
Je suis d'accord à 200% avec Jean-Louis et j'enlève le côté le jeu. Le jeu, c'est le jeu pratiqué par Didier Deschamps, on n'est plus très surpris, mais ça gagne. L'essentiel pour un sélectionneur, c'est de se qualifier pour les grandes compétitions et d'aller le plus loin possible. On parle du dernier carré, on parle de la finale. Moi, je suis ravi de ce qui s'est passé là. On ne s'est pas compliqué la tâche. La victoire face à l'Ukraine, elle a été ce qu'elle a été, mais ça a été 4-0 à la fin quand même. Et puis, on se rappelle aussi des années bien avant. J'ai pas 70 piges, mais j'en ai 45. Et il y a quelques années, la France, pour se qualifier une Coupe du Monde, on faisait déjà la fête. Là, on fait presque la fine bouche en se disant, il manque un morceau. On va à la Coupe du Monde avec une équipe qui brille, avec des grands joueurs et avec l'espoir, pourquoi pas une nouvelle fois, d'aller chercher un titre. Et moi, je fais partie de ceux, je vais peut-être en choquer certains, que peu importe le jeu, si on ramène le titre, on s'en fout.
T'es un pragmatique, toi.
Gagner une Coupe du Monde. On a critiqué la finale contre la Croatie. Au final, nous, on est champion du monde, pas la Croatie.
On fait comme pour le rugby, là. Jérôme, il a raison. On fait comme pour le rugby. Eh, on a gagné, c'est bon. Là, on commence à être en sang bourgeoise, là, comme ça. Mais non, il s'est qualifié, c'est bien. Pourquoi les gens, ils sont pas contents? Deuxième étape, on verra où est-ce que Didier va amener l'équipe. Mais en vrai, faut rester à l'essentiel, les gars. C'est qualifié.
Toi, c'est ça, il faut pas banaliser en plus. C'est vrai, Jérôme le disait.
Bah ouais, après, le style de jeu, tout ça, on peut en discuter, mais en vrai, là, il s'est qualifié.
Non, mais
il
a tout réussi,
peut-être pas, mais il s'est qualifié, il est premier.
Style de jeu pendant la qualif, tu n'auras pas forcément là.
Eh bien, après, c'est un problème de système, un problème de personne. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une belle équipe et gagner 15-0? Non, on lui demande de se qualifier.
Il y a eu beaucoup de blessés, donc.
Comme pour le rugby, la même chose, c'est le même combat.
Simon, toi, t'es pas totalement convaincu?
Simon.
Non, mais parce que je suis comme Jean-Louis, évidemment, 90% de satisfaction, mais on peut toujours, si on veut, chercher. Il y a eu la petite polémique avec Dembélé, la blessure, les relations avec le PSG, il y a cette communication toujours un peu évasive, un peu fumeuse, on aimerait un petit peu plus de sincérité, voilà, il a l'art mieux que personne, il maîtrise l'art mieux que personne d'échapper à des questions simples, très directes, qui souvent l'agacent et l'agaceront toujours jusqu'à la fin de son mandat, auxquelles je pense qu'il pourrait répondre de façon un petit peu plus limpide, un petit peu plus claire, ça nous éviterait des heures de débat, il faudrait qu'on soit plus créatif dans nos conducteurs du coup, mais donc on leur remercie pour ça. Non, après moi, ce que je regretterais, moi je suis comme Jérôme, je me suis toujours battu en disant, écoutez, si ça vous va pas de gagner la Coupe du Monde, Aimé Jacquet a été porté au nu parce que c'était la défense, la solidité de l'équipe de France qui nous avait permis d'être champion du monde.
98,
on a battu le record de buts en phase finale d'une Coupe du Monde en Russie, ça n'allait toujours pas aux observateurs, donc il y a toujours des choses à redire. Moi, je m'habituerai jamais à ces listes de l'équipe de France avec ses milieux de terrain. Quand tu vois la catégorie milieu de terrain, il n'y a jamais un créateur. Jamais. On n'aura jamais un créateur. Alors, c'est lié au fait que désormais,
voilà, on
construit les listes en fonction du
numéro 10. Hein,
oui, mais justement, ils sont devant les mecs. Les mecs qui avant étaient des créateurs au milieu de terrain, ils sont dans la catégorie attaquant. Et c'est vrai que, encore une fois, on s'est tous fait avoir. Il y a eu ces demi-promesses, ces promesses à demi-mots de Deschamps de nous faire rêver un peu plus, parce que quand t'intègres des Doués, des Olysée dans tes listes régulières, tu t'attends à un petit peu plus de créativité, de flair, de combinaison. On a perdu un Griezmann, mais on a récupéré des Dembélé, Doué, Olysée. Donc, on attend tous, évidemment, un petit peu plus de spectacle. Mais force est de constater qu'il a quand même réussi à progressivement sortir de son 4-3-3 pour aller de plus en plus fréquemment vers un 4-2-3-1 qui laisse la place justement à un 10, à un numéro 10. Je sais que c'est une hérésie dans le football moderne, mais pourquoi pas stabiliser. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas eu, tu as rappelé qu'il y avait eu beaucoup de blessures, l'occasion de dégager une équipe type. Voilà, on aimerait savoir l'équipe de France, aimerait qu'elle bouge pas, on aimerait que le 11 de l'équipe de France.
Mais les gars, est-ce qu'on a souvent une équipe type avant la Coupe du Monde qui se dégage? Jean-Louis.
Moi, il y a deux points quand même sur lesquels je veux revenir. Le côté, on est qualifié, il faut s'en satisfaire, etc. Attention quand même, hein, avec une Coupe du Monde à 48 équipes. Bon, alors il y a d'autres grandes nations qui sont en difficulté, mais globalement, on va avoir des groupes de plus en plus faciles. Oui, et il faut aussi, je pense, changer un peu notre logiciel avec ce qui s'est passé en 93, etc. C'était vraiment compliqué de se qualifier. Et le deuxième truc, c'est le traumatisme de l'Euro qu'il faut pas oublier. L'Euro, c'était tout ce que vous dites. Le résultat avant tout, le jeu, on s'en fout, etc. On fait confiance à Deschamps parce qu'en 2022, on avait fait finale avec cette recette-là. Sauf qu'à l'Euro, on a vu les limites de ce système-là où, à l'arrivée, on s'est ennuyé et on n'est même pas allé au bout et on est sorti de là. On se rappelle même plus des matchs quasiment de l'Euro, tellement c'était ennuyeux et des qualifs tirés par les cheveux. Et je pense que c'est la suite de cet Euro qui fait que Deschamps a voulu faire une équipe un peu plus offensive. C'est pour ça qu'on reparle de jeu. Sinon, moi, je suis comme vous, hein, on enregistre le résultat, on est champion du monde, on est content.
Non, mais c'est vrai. Alors, la France avait fait demi-finale au dernier Euro contre l'Espagne. Mais Jean-Louis a raison. C'est vrai que c'est une compétition où tout le monde a été dans une certaine morosité en regardant les matchs.
Mais depuis quelques temps, les compétitions internationales n'ont plus l'intensité et le même goût qu'avant, dû au trop grand nombre de matchs certainement.
Mais sur le niveau de jeu des compétitions internationales aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On parlait de 98. On se souvient, quand tu vois le documentaire, Jacquet, il a un mois pour préparer son équipe. Ils la façonnent, ils truquent, etc. Aujourd'hui, ils ont 10 jours, 15 jours. Les mecs, ils sortent des saisons. La finale de Ligue des Champions, elle est une semaine avant le début d'une compétition. Il n'y a plus de temps de préparation. Ils sont rincés. Et donc, le football de sélection souffre de la comparaison du football de club avec cette Ligue des Champions et des matchs exceptionnels. Donc, en termes de niveau de jeu, oui, t'as l'Espagne.
Donc
joue.
C'est quoi? Il faut renoncer à cette idée. En fait, il faut pas être trop exigeant avec des champs.
Sur la sélection,
là-dessus.
Non, il faut être très pragmatique. Mais Deschamps, il l'est. Jean-Louis a raison de mettre en avant le fait que c'est de plus en plus facile de se qualifier par rapport à avant. Mais moi, je suis d'une génération. C'est 32 ans jour pour jour, hein. C'est le 17 novembre 93, hein. On est le 13 novembre.
Costa Rica.
Moi, j'ai été.
Élimination.
J'ai été marqué par cette élimination à la dernière seconde. Donc, le fait qu'on n'aille pas à la Coupe du Monde,
c'est avant, Julien, un faux pas face à l'Israël. C'était pas des grandes nations du football.
Le fait de regarder des Coupes du Monde à la télé sans qu'il y ait la France, ça, aujourd'hui, les jeunes.
Ils ne le savent pas. Mais nous,
l'Italie, ils en ont eu deux de suite.
Et ça peut venir là.
Voilà, Deschamps, ça c'est facile. Il coche les cases.
Parce que nous, on a souffert en fait de ces
qualifications. Mais en plus, il y a un trompe-l'œil avec cette histoire, ce traumatisme de coche les cases. Parce que on parle beaucoup d'Israël, mais Israël, ils y vont pas non plus. Mais dans notre groupe devant nous, il y a la Suède et la Bulgarie. Et la Suède et la Bulgarie sont tous les deux en demi.
Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse pas l'after de 93. Mais
Deschamps, il a banalisé le fait que la France
se qualifie facilement. Exactement.
Et tu regardes le football aujourd'hui, il a changé, comme dirait un certain joueur. C'est très défensif maintenant, à l'image de Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'était quoi? C'était un 6, c'était un mec, c'est un défensif. C'est pas un mec qui faisait jouer des Olysées, des créateurs comme ça. Mais en même temps, tu regardes les autres grosses nations, on va dire le Brésil, ils ont que des créateurs, ils galèrent. Défensivement, ils sont dégueulasses. ils se prennent plein de buts. Pardon, désolé, mais
non, mais t'as raison. Voilà, c'est ce qu'il y a ailleurs, et changé, pas forcément.
Il a changé le football. Mmh. Maintenant, c'est très basé sur la défense, monté à je sais pas combien, le 3-5-2, ainsi de suite. Et du coup, ça laisse moins de place à un 10. C'est moins beau, mais l'efficacité, elle est là. Et après, c'est pas joli parce que le spectateur, il veut des buts et des retournements de situation, des va-et-vient à la basketteur. Oui, on marque un point, toi aussi, tu marques un point. C'est plus ça.
Là où tu as raison, c'est qu'en fait, à part l'Espagne aujourd'hui dans notre tête, qui a un jeu flamboyant.
Mais attends, l'Espagne en 2010, quand ils gagnent la Coupe du Monde, c'est parce qu'ils prennent pas un but. C'est parce que c'est impossible
c'est
parce que de
c'est
leur mettre
solide
un
derrière.
Ouais. C'est pas parce qu'ils font danser leurs adversaires. Les derniers qui ont gagné la Coupe du Monde,
c'est pas que ça.
En régalant la planète entière, c'est le Brésil en 70. Hein. Depuis,
non, mais c'est pour ça que celui-là dit. On a quand même en tête ce match référence face à l'Argentine. On a dit, on a été champion du monde. Il y a eu des matchs de l'Argentine. C'est une fulgurance d'Mbappé.
Attends,
on
a perdu. Je te rappelle la finale.
Non. Mais celle qu'on a gagnée.
T'as pas été à la radio avant les
sciences. Celle de 2018, on gagne grâce à des fulgurances. On jouait déjà comme ça. Et pourtant, on a fini tous très contents. Moi, je reviens aussi à tordre l'idée de la préparation. Je suis désolé, j'ai fait un sport où les grandes compétitions arrivent en fin de saison. Faut arrêter avec la préparation. Quand tu finis une saison, tu bases ta prépa sur de la récup, t'as des joueurs frais et opérationnels. T'as pas besoin de faire de préparation quand t'attaques une compétition alors que t'as joué toute l'année. Je suis désolé, quand tu arrives à un championnat du monde sur route de cyclisme ou au Tour de France, si t'as couru des 40-50 jours de course, tu fais pas une prépa spécifique. Faut arrêter avec
là,
ça.
Y a l'aspect...
T'as non, pas besoin d'un mois pour
si,
te préparer.
Il y a l'aspect tactique qui est différent.
Mais la mise en place tactique, ils jouent quand même souvent ensemble, hein, les mecs.
Prends
l'ossature de l'équipe de France. Ils se croisent souvent quand même. Ils jouent souvent ensemble. Dans les prépas, dans les matchs de prépa, dans les matchs amicaux. Là, il va y avoir encore des matchs en mars, puis la préparation pour la Coupe du Monde. La mise en place de l'équipe.
Là, les matchs en mars vont se faire vraiment, je pense. En tout cas, j'espère qu'il va s'arrêter.
Par contre, le match de ce soir, pour certains, il est évidemment préjudiciable et très important, parce qu'après, c'est mars, aux États-Unis, et la préparation.
Là, il va tester des choses, peut-être ce soir.
Il va peut-être tester des choses, mais tiens, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Ibrahima Konaté, le défenseur de l'équipe de France, qui parle de l'intérêt de ce match ce soir.
Bien sûr que tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner des points, entre guillemets, ça c'est sûr, mais. Peu importe l'issue du match, je sais que vous attendez que ça, qu'on perde ou qu'on gagne, ça ne changera rien du tout. Donc même si le match demain il est catastrophique, il faut prendre en considération tout ce qui se passe. On est déjà qualifié, il n'y a strictement rien à jouer. L'équipe elle va sûrement tourner, donc faudra vraiment pas critiquer, se focaliser sur ce match-là parce que je vous connais très bien. Donc on ira tranquille, mais on va faire l'effort. J'espère, parce qu'on a des devoirs envers cette équipe de France, de donner le maximum, bien évidemment.
Bon, il est pas loin de dire ce match, ça sert à rien.
Il a lâché, ça y est.
La chute, il se rattrape au dernier moment en disant on porte le maillot de l'équipe de France, on a des devoirs, mais avant, c'est quand même assez lunaire.
Avant, c'est quand même assez lunaire.
Parce que t'as pas le droit de parler comme ça quand tu vas être capitaine de l'équipe de France, Jean-Louis.
Je suis même pas sûr que Didier Deschamps pense comme ça. À ses yeux, ce soit un match tranquille, etc. Il a envie de voir des attitudes de mecs qui ont envie de gagner, qui ont les crocs et qui veulent gagner leur place pour la Coupe du Monde.
On se probable d'ailleurs, Jean-Louis, pour ce soir, ça va beaucoup tourner.
Énormément. Oui. Là, on se dirige vers un changement complet. Quasiment les 11 joueurs de l'Ukraine qui vont tourner. Donc, on va avoir une équipe vraiment remaniée avec donc déjà Chevalier qui va faire sa première dans les buts. Une défense Gusto, Konaté et les deux frères Hernandez. Akliouche, Zahir Emery, Kefren Thuram, Nkunku au milieu et Mateta et Kitike devant.
Est-ce que Jean-Louis, tu crois qu'il a sa charnière centrale pour la Coupe du Monde des champs déjà ou pas?
Ouais, je pense que c'est Upamecano Saliba. C'est la paire qui a commencé la plupart des gros matchs et Konaté sans doute sur le banc. Ouais.
D'accord. Tiens, on a Stéphane qui nous appelle au 32, c'est supporter de l'équipe de France. Salut Stéphane.
Bonjour les GG du sport.
Bonjour à toi, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que Deschamps a tout réussi pendant ses qualifs pour toi?
Alors, est-ce qu'il a réussi? Oui, parce qu'il a fait le job. Il a fait ce qu'on lui avait demandé. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la... je sais pas, pour la quatrième ou cinquième fois d'affilée.
Quatrième.
Je vais dire non. Pourquoi? Parce que, vu le tirage de sort qu'on a eu pour les adversaires, qu'on a eu donc l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, l'Islande, on aurait pu faire le carton plein. C'est-à-dire, avant le match de ce soir, 5 matchs, 5 victoires.
D'accord, il faut absolument impacter justement en allant gagner dans ces matchs-là.
On revient un peu au même discours que ce qu'on avait tout à l'heure avec le rugby et le Fidji. Il n'y a plus de petites nations. l'Islande, c'est pas une petite nation. C'est l'Islande, c'est une équipe qui va au championnat d'Europe régulièrement. L'Ukraine, Dieu sait si on se souvient de ce match qui a été un match coup près face à l'Ukraine pour aller en Coupe du Monde et après gagner cette Coupe du Monde.
On en parlait tout à l'heure.
Il y a pas de petite nation.
Ah ben en fait, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Deschamps-Galtier, c'est même combat. Il y a plus de petite nation. On n'a plus le temps pour préparer.
Mais c'est la réalité.
Non mais Deschamps,
il y a des circonstances atténuantes à chaque fois en fait.
Non mais on cherche des circonstances atténuantes à des mecs et c'est peut-être les deux plus grands sélectionneurs qu'on ait jamais eu. Donc il faut qu'on arrête de péter les plombs avec eux quoi. Enfin, Deschamps c'est sûr, c'est le plus grand sélectionneur qu'on ait jamais eu.
Deschamps,
Dieu sait si j'adore et j'aime Aimé Jacquet et Galtier dans le rugby. Oui, il y a eu Laporte mais avec ce qu'il fait et ce qu'il a fait ces derniers temps, c'est
monstrueux. Il manque un titre majeur.
Je crois que tu oublies que tu as été quand même capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup qui fait peut-être de toi sacré sélectionneur.
Tu t'es oublié dans la liste.
Merci pour l'humilité. Et merci à Jean-Louis Tour d'avoir été avec nous depuis l'Azerbaïdjan. Merci Jean-Louis.
Salut Jean-Louis.
Merci à vous.
18h tout à l'heure, le coup d'envoi d'Azerbaïdjan-France. C'est un match important pour gagner des points. N'écoutez pas Ibrahima Konaté, soyez à l'écoute d'RMC. Et on remercie Stéphane qui était avec nous depuis Fréjus, qui a appelé au 32-16. On a retrouvé Léna Marjac à Lévis pour le slalom masculin. La première manche avec nos Français passés déjà sur la piste finlandaise, Léna.
Oui, avec Clément Noël, deuxième provisoire de cette première manche, à 4 dixièmes de Lucas Pinheiro Breton, le skieur brésilien qui pour l'instant domine ce slalom ici à Lévis. Pour le retour de nos slalomeurs français, Clément Noël a fait une très très bonne première manche et on retrouve à la 7e position également Steven Amier à 1:20 de la tête de course aujourd'hui. Donc nos Français pour l'instant vont voir, en tout cas ça c'est sûr, la deuxième manche. Clément Noël est bien positionné pour aller chercher le podium, voire la victoire, lui qui est tenant du titre ici. Et on aura encore quatre Français au départ, notamment Victor Muffat-Jandet, le doyen de cette équipe de France de slalom, 36 ans, il va s'élancer dans quelques instants.
Bon, nos Français, c'est les slalomeurs, c'est les meilleures chances françaises pour les Jeux Olympiques, hein, Léna, il faut le rappeler, hein, pour les médailles.
Ah bah oui, clairement, parce que la saison passée, c'est dans cette discipline-là qu'on a eu nos seules victoires, 4, et c'est avec un homme, Clément Noël, le champion olympique en titre, qui va remettre son titre en jeu dans quelques mois à Bormio, aux Jeux Olympiques.
Et voilà, donc c'est eux que l'on va suivre particulièrement, et c'est pour ça que ce slalom est très important aujourd'hui pour Clément Noël et les slalomeurs français. RMC Radio officielle des Jeux Olympiques d'hiver, Milan Cortina, RMC Radio officielle de la prochaine Coupe du Monde. Également, on est partout, tiens, d'ailleurs, tirage au sort le 5 décembre à Washington pour la Coupe du Monde de foot. Dans quelques instants, on va parler tennis, Bennett. Sinner Alcaraz en finale de la ATP Finals aujourd'hui. D'accord, à 18h. Mais on va parler de la punchline de Novak Djokovic qui a dit peut-être que Yannick Sinner allait être suivi par une ombre toute sa vie. Bon, son ombre normale, mais aussi l'ombre de sa suspension. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant, les GG remontent le temps. On va remonter à France-Ukraine 2013, l'acte fondateur de Deschamps, un match indestin. On va en parler avec Jérôme Pinault, Ladji Doucouré, Julien Beneteau, Simon Dutin autour de la table des grandes gueules du sport ce matin. D'ailleurs, je vous rappelle, vous pouvez retrouver toute la première heure en podcast hein, sur toutes les plateformes. En fin d'émission, vous pouvez participer avec vos GG au jeu du sport. Remporter aujourd'hui un aspirateur Cyclomax R15 station signé Easy Clean pour remporter votre aspirateur. Easy Clean, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16. Tout de suite, quand le plus grand joueur de tennis de tous les temps, en tout cas par le nombre de grands chelems, envoie une grosse punchline, on l'écoute et on débat.
RMC, la punchline GG.
That cloud will follow him as the cloud of...
Cette ombre va le suivre comme l'histoire de la Covid va m'accompagner pour le reste de ma carrière. Le manque de transparence, l'incohérence, l'avantage d'une sanction entre les grands chelems pour qu'il n'en loupe aucun, c'était très très bizarre. Mais bien sûr, il est responsable parce que ce sont les règles. Quand on voit quelqu'un être suspendu pendant des années pour quelque chose de similaire et lui, il est banni pendant 3 mois, ce n'est pas juste.
It's not right.
Ce n'est pas juste, après ce qu'il s'est passé, dit Novak Djokovic. En tout cas, comment ça s'est fait? Grosse punchline quand même hein, de Novak Djokovic. C'était en Angleterre, une interview avec Piers Morgan, un journaliste assez célèbre. Je rappelle que Sinner a été suspendu 3 mois. C'était pile entre l'Open d'Australie et Roland-Garros. Il avait été testé positif à 2 reprises au Clostable, un stéroïde, en mars 2024, pendant Indian Wells. Il était alors numéro 1 mondial à l'époque. Il avait passé ensuite un accord avec l'Agence mondiale antidopage pour purger sa suspension de 3 mois après son sacre en en Australie. Il avait été blanchi, je rappelle, par un tribunal indépendant qui avait conclu qu'il ne s'était pas dopé volontairement. Les GG, je vous pose la question. Alors que Sinner est en finale de l'ATP Finals aujourd'hui face à Alcaraz à 18h. Encore une nouvelle confrontation entre les deux. Est-ce que Sinner est sali à jamais, comme le laisse entendre Novak Djokovic? Ladji, tiens. Sali à jamais pour toi?
Moi, je dirais oui, malheureusement pour le bien du tennis.
Pourquoi? Pourquoi selon toi?
Parce qu'il faut des icônes, et quand on veut des icônes, il faut un méchant et un gentil. Donc il va prendre la place de Djoko, c'est le méchant.
Tu veux dire que ça arrange bien peut-être le narratif?
Je pense, après je sais pas si Julien est d'accord avec moi, mais je pense qu'il va dire non. Mais oui, il faut de la confrontation, il faut un duel, il faut créer quelque chose. Du Nadal Federer, c'est bien, mais c'est pas assez, tu vois, c'est pas assez opposé. Il faut à un moment quelqu'un qui est pas bien. Et Sinner, il joue trop bien, il est fort, tout. Et derrière, t'as Alcaraz qui dit rien, qui est trop parfait.
Attends, mais ça, d'ailleurs, ça me rappelle, je pense, on peut faire une comparaison avec l'athlé, Bolt et Gatlin.
Et Gatlin qui revient, et il est encore plus fort, et tout le monde veut ce duel-là, tout le monde veut la peau de Bolt, parce que Bolt, il est trop clean, il est trop droit. Et Gatlin, c'est l'enfant détesté de tout le monde. Et derrière, il l'a battu à la dernière course et tout le monde était là. Ouais, ça opposait les gens. Et là, j'ai l'impression, et je pense que c'est, en tout cas, c'est mon avis, que Sinner, il va prendre ce costume-là.
Mais toi, tu vois, t'as vécu ça. Mais c'est intéressant la comparaison avec l'athlète, je trouve. Sur Bolt, finalement, le moment où c'est peut-être le plus intéressant dans tout l'univers de sa carrière, c'est peut-être à ce moment-là de cette rivalité.
Avec Gatlin. Il était trop tout seul, trop
devant. C'était le chevalier blanc, Bolt.
Voilà, ouais.
Ouais. Et ça fait du bien, je pense, à l'athlète, ça, du coup, qui est ça.
On en a parlé, et je pense que pour le tennis, là, j'ai l'impression que c'est ça. Après, moi, je suis pas technique sur le tennis. Hein,
ouais, mais, bien sûr.
Mais là, t'as Alcaraz qui est là. Il faut quelqu'un à côté de lui.
Non, mais c'est pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. On n'avait pas forcément pensé sur ce côté-là, mais pour le narratif que ça peut créer entre, ils sont très amis les deux, hein, Alcaraz et Sinner. Peut-être trop d'ailleurs. On a posé la question avec Eric Salio hier.
Vladji, un truc, mais c'est pas du tout ce qui va se passer.
Parce ça, que tu penses pas?
Non. Déjà, dans le narratif de monter la rivalité, etc., la TP va pas du tout mettre.
Mais c'est pas la TP qui le fera, c'est plutôt l'univers médiatique.
Mais le public.
Je suis allé
voir au Rolex Paris Master.
Ils ont déjà oublié.
Mais personne n'en parle dans le milieu du tennis.
Non, mais Gatlin et Bolt, ils sont potes, ils se parlent, mais le grand public.
Mais le grand public,
moi j'ai pas oublié.
Le grand public, on a.
Ouais, mais dans l'athlète, il y a une autre histoire avec le dopage aussi.
C'est quand même pas exactement
le même.
Il l'a fait intentionnellement et il a essayé de se cacher.
Ouais.
Sinner, il est quand même démontré. Tout le monde accepte le fait que.
Pas moi.
Oui, il y a Jérôme.
Non, mais je veux dire, le narratif, justement, il y a toujours une version. Le narratif de la négligence de l'entourage, au niveau factuel, c'est quand même accepté. Je veux dire, tout le monde a accepté l'idée que c'est pas Sinner qui s'est enduit, que c'est son kiné qui avait les produits sur les mains.
Donc, son kiné qui est nouveau dans son équipe. Hein,
quand tu vois que la négligence, elle est reconnue, qu'il a été défendu par des, quand même, c'est Nadal qui l'a défendu, quoi, en disant moi je ne crois pas à l'intentionnalité. Que
Djoko le dit aussi un peu dans l'interview.
Il est admis qu'il n'a pas fait ça pour quand bien même il n'aurait pas fait ça pour améliorer ses performances. Et je pense que le plus gros risque pour que ça colle à la peau de Sinner, c'est que des émetteurs comme Djokovic.
Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important.
Attention, j'ai pas dit que.
C'est comme si Djokovic avait envie finalement qu'on lui remette ça.
Attention, j'ai pas dit qu'il s'était chargé volontairement. Mais dans le storytelling, des gens comme moi qui regardent le tennis de temps en temps, ça fait le gentil, le méchant, la rédemption, il revient et ça crée.
Elle a été courte, la rédemption.
Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est intéressant dans ce débat à chaque fois de voir ce que pense le monde du tennis et le grand public, on va dire, est différent. Ou les autres sports.
On a fait le débat avant Roland Garros, ici, dans les GG, en disant comment Sinner va être accueilli par le grand public à Roland Garros et tout. J'ai dit, vous allez voir, il sera ovationné, etc.
Aucun doute.
Alors peut-être pas le grand public, mais les sportifs d'autres sports, en tout cas, ont une perception différente.
Aujourd'hui, et dans le milieu du tennis, on dit, est-ce qu'il est sali à jamais? Mais pas du tout. En fait, pas du tout.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que si les mecs l'accueillent bien dans le vestiaire, le saluent, son copain avec lui, est-ce que ça veut dire qu'il est finalement bien accueilli, donc pas sali et on a oublié?
Non,
parce qu'il faut pas oublier, Julien, un truc qui est dans tous les sports, pareil, c'est quand la star revient, c'est un monde d'hypocrite. C'est-à-dire que nous, quand les anciens dopés sont revenus, je te parle de Valverde, je te parle de Armstrong, mais ils étaient tous à ses genoux. C'est super. Mais c'est le monde du sport qui est comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie et qu'on passe? Non, ça ne veut pas dire qu'on passe. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, et dans le milieu du sport, on a quand même un principe, c'est l'hypocrisie, le champion, il revient et on se met à genoux. Moi, je suis d'accord avec Duco pour dire que ce mec-là, avec la façon, c'est pas tant le produit, c'est pas tant la manière, c'est pas tant les explications qu'il a données, c'est la façon dont ça s'est passé qui sera...
Ça lui permet de ne pas rater de grand chelem, la suspension qu'il a eue.
Et puis, c'est juste ahurissant comment il a pu s'en sortir si vite et revenir si vite à la date où il a voulu.
S'il avait été suspendu un an comme
tous les autres avant lui à ce produit-là, peut-être que ça aurait été différent.
Mais Jérôme, je passe sous le contrôle de Bennett. Tous dans le tennis, même ceux qui ont pris des trucs plus lourds, la suspension, elle est toujours réduite des trois quarts de la durée.
C'est pour ça que c'est révoltant pour les autres sportifs des autres sports.
Oui, mais quand tu vois, je regarde Sharapova, je crois, elle avait pris un truc qui a longtemps été autorisé, et elle a continué à le prendre pendant des années. Elle s'est fait attraper. Bon, ça lui a pas collé à la peau jusqu'à la fin de sa carrière. Cilic, il avait pris je ne sais quoi.
C'est Alep, elle a pris cher.
Simona Alep, ancienne numéro 1 mondiale. Cher,
parce que, si tu veux, elle a arrêté sa carrière assez rapidement après. Je pense qu'elle a pas eu le temps
Elle a pris deux ans, et après ça a été réduit, mais elle a quand même pris à la fin
elle a pris un anabolisant. C'est pas exactement, c'est un peu plus grave que non.
C'est un stéroïde anabolisant aussi pour le coup.
Je comprends, j'entends ce que dit Jérôme sur la manière dont ça s'est fait. Et ça, dans le milieu du tennis. Comment la communication, ou plutôt la non-communication de l'ATP et des instances, le fait que la suspension a été réduite dans un laps de temps où sportivement, en fait,
dans le monde du tennis, je suis d'accord avec toi.
Ça, c'est compliqué.
Pour le grand public, pour les gens qui ne suivent pas le tennis de très près, ça pue la magouille.
Ça aussi, dans le milieu du tennis, je vais dans ton sens. Oui. Les autres joueurs disent, c'est pas normal. Là, il y a eu la manière dont il s'est défendu et comment il a été non suspendu, on va dire. Là, même dans le milieu du tennis.
Ça fait grincer.
Et trouve que ça fait grincer. Mais est-ce que ça le salit? Non.
Non.
Parce que les autres joueurs.
C'est pour ça que je dis, dans le grand public comme moi, petit public, on va dire. Moi, en tout cas, je pense ça, je dis que ça va le suivre et ça ne l'aide pas. Et du coup, dans le storytelling du le petit méchant, pas même méchant, mais ça aide le tennis parce que les gens regardent comme moi. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Ok, il est en finale contre le Garage.
Mais t'as envie de le voir perdre, en fait, presque. Tu vas avoir envie de le voir perdre.
Et pourtant, il joue bien. Il fait des coups de fou et tout. J'étais le voir à Paris. J'étais content de le voir, mais à un moment, quand il loupait, je dis, gars.
Tu t'en souviens, en tout cas. Non, mais
je pense que Julien, tu es vraiment dans le milieu et tu as cette vision-là de finalement le milieu, mais tu te parles du grand public, mais ça reste un public de tennis.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Pour sortir du public tennis, je rejoins Ladji, on va tous penser à moi le premier, évidemment.
Mais vous aussi, vous voulez deux sports, les gars, le cyclisme, l'athlétisme, quand tu as été attrapé pour dopage,
nous, dans nos sports, il y a investigation et on croit pas sur parole le mec qui a dit que. Il y a un peu plus que ça. Et par précaution, tu prends la suspension, déjà, tu prends cher. En plus, tu vas chercher derrière l'histoire du joueur, à qui il est associé, qui est ce fameux soigneur. Ça aurait fait une histoire incroyable dans le foot, dans le vélo ou dans l'athlée. Là, il y a un petit arrangement entre amis et ça déplaît et ça peut pas passer. Et évidemment que cette histoire va le suivre.
Après, je sais pas si c'est dans le conscient ou dans l'inconscient, mais si tu veux, le fait que ça l'a pas aidé. Franchement, le fait que la communication a été faite et comme ça est bâclée. Mais tu te dis, maintenant, j'ai envie de le voir galérer à revenir. Et il galère pas, en fait, parce qu'il est fort. Et du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu te dis, ça va le suivre. Lui, c'est le méchant.
Oui, c'est ça qui est gênant, en fait. C'est ça qui peut être gênant, c'est qu'on a l'impression que, en fait, ça n'a rien changé, que c'était juste, il aurait pu être blessé, par exemple, et revenir tout de suite au.
Je me trompe peut-être, au milieu. En tout cas, je sais que
En fait, franchement, il y a des messages. J'ai sur WhatsApp, 06-12-84-424, Badin qui me dit, Sinner, il vire son soigneur, il le reprend, on dirait une blague. Et c'est vrai qu'on a souvent, quand même, quand on parle de Sinner, parce que c'est pas la première fois, tu le disais, Bennett, qu'on parle de ce cas-là, on a quand même
même souvent beaucoup de messages sur le côté c'est pas normal, voilà, il y a quelque chose de gênant, il y a un malaise, peut-être pas dans le public du tennis qui vient assister aux compétitions. Donc c'est un sujet qu'on va évidemment continuer de développer, je pense, tout au long de la saison. Sinner face à Alcaraz, c'est la finale encore une fois cet après-midi à 18h à de l'ATP Finals. Je rappelle, c'est le rendez-vous des 8 meilleurs mondiaux. Alcaraz est numéro 1 mondial, hein, il terminera numéro 1 mondial quoi qu'il arrive, c'est le Masters. Il a gagné 4-1 cette année, Alcaraz. Il mène 4-1 dans la confrontation face à Sinner. On va continuer de parler de tennis tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il y a la Coupe Davis hein, la semaine prochaine. Est-ce que vous allez vous y intéresser, alors que la France est en quart de finale dans le tournoi final pour la première fois? Mais d'abord, en quelques instants, on va prendre la Dolorean, on va remonter le temps. France-Ukraine, pas celui de cette semaine, mais celui qui les a emmenés au Brésil. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Ladji Doucouré, avec Julien Beneteau, Jérôme Pinault, Simon Dutin. Tiens, qui serait le bad guy d'ailleurs dans notre narratif des grandes gueules du sport? Qui serait le mauvais gars? Celui qui mériterait d'avoir la ceinture du bad motherfucker, comme ça a été annoncé tout à l'heure.
Julien Charvet.
Julien, ouais, Julien, franchement.
Moi,
Julien.
J'ai rien du bad guy.
T'as rien du bad guy.
Rien du tout. Je suis l'élève, le truc. J'ai rien du bad guy.
Enfin, tu fais juste ton gars là quand t'es avec nous, quoi. T'es pas d'accord.
Je suis pas bad guy.
T'as réussi à péter Cosla tous les jours quand même. Déjà. Voilà.
C'est lui le bad guy.
Ah, c'est vrai que Jérôme pas mal placé peut-être. Non, non. Dans un instant, on ouvrira le vestiaire des GG. Comment gérer la récupération physique et mental, hein. Ça va être un sujet très intéressant, je pense, qui vous concerne tous, hein, d'ailleurs, vous qui nous écoutez. On parle de sport là, mais c'est dans la vie de tous les jours, la récupération mentale. On va en parler alors qu'on parle des cadences infernales dans tous les sports actuellement. Mais d'abord, les GG, je vous propose, c'est qu'on remonte le temps il y a 12 ans au Stade de France.
Le coup franc de Mathieu Valbuena, ceci jeté là sur la passion, la frappe de Ribéry, l'arrêt de Piatov, et peut-être le but, ouais, les voilà le but, les voilà. Le premier but de l'équipe de France, il est signé Mamadou Sakho. Debuchy peut-être pour la tête de Benzema, la reprise de Ribéry, qui sait, Pogba qui la récupère avec Evra maintenant, la frappe de Kaba, elle est détournée, les contrées, Benzema la frappe, le but, et le voilà, le deuxième but de l'équipe de France. Varane, la frappe de Evra, elle est repoussée, ah, dans les pieds de Valbuena, oh non, dans les pieds de Pogba, oh non, peut-être dans les pieds, le but, et le voilà, le but de Sakho. C'est la frappe de Ribéry. Mamadou Sakho.
Mamadou Sakho. J'adore essayer aux commentaires à l'époque. Invraisemblable, irrationnel. Mais Mamadou Sakho se disait, qu'est-ce que je fais là? Un peu comme Lilian Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Croatie en 98. France-Ukraine 2013. Ce match nous permet d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Je vous rappelle que les Bleus avaient été battus 2-0 à Kiev au match aller. Et on était au bord du gouffre. Et finalement, donc, le doublé de Sakho et le but de Karim Benzema, qui lui aussi ce jour-là avait eu une célébration qui montrait vraiment qu'il y avait une libération chez lui. Cette soirée a forgé le destin du sélectionneur peut-être et rallumé la flamme des Bleus, hein, alors qu'on était dans une période un peu morose avant un match indestin. Jérôme, on en a beaucoup parlé en préparant cette séquence. T'as marqué toi ce match France-Ukraine?
Ouais, alors déjà l'ambiance le jour J sur le Stade de France, comme je disais à l'instant, on reconnaît pas le stade quand on allume la télé, on prend l'antenne. Le Stade de France est transformé, celui qui est si froid d'habitude et chaud, on sent qu'il va se passer des choses. Et puis je pense que ce soir-là, c'est le match fondateur de tout ce qui va se passer après. Même si au Brésil, Mats Hummels nous arrête dans notre élan
en quart de finale,
en quart de finale face à l'Allemagne. Je fais partie de ceux, et je répète ce qu'a dit Jérôme Alonso sur une autre antenne cette semaine. Je pense que la France derrière est championne du monde parce que il y a ce match. C'est le point 1 de cette histoire avec l'équipe de France qui redémarre. Ce match-là, tu vas le chercher nulle part. Tu t'attends vraiment pas à ça. Tu penses pas que cette équipe-là, et rappelez-vous les commentaires et le caractère pour cela. Et t'as un Mamadou Sakho qui sort de là, de quasiment de nulle part.
Toute sa vie, on l'appelle.
C'est l'homme de l'Ukraine. Et c'est clair qu'à partir de là, il se passe quelque chose chez les Bleus qui ne s'était pas passé avant.
Après, oui, que la défaite face à l'Allemagne nous ait porté vers le titre en 2011, ça on peut pas savoir. En revanche, si tu gagnes pas ce soir-là, Deschamps saute, tu changes de sélectionneur, tu vas pas à la Coupe du Monde. Et en effet, tu peux pas lancer la grande épopée de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et tu fais bien de souligner que ce soir-là, le Stade de France, et je crois que c'était une volonté de la Fédé de
chauffer réussi pour le coup,
le rugby. On regrettait souvent qu'il n'y ait pas assez d'ambiance dans ce stade. Il faut se souvenir, on n'est pas longtemps, on est quand même toujours en train de ressasser Nice-Na.
Oui, bien sûr.
Entre guillemets, des petits cons, bien sûr, les mecs qui ne savent pas gagner.
Les demandes en mariage en direct.
D'un creux générationnel. T'as l'impression que t'es passé à côté de certains joueurs. Ce soir-là, t'as quand même, il y a Mamadou Sakho, mais il y a quand même Raphaël Varane aussi en charnière qui fait un match exceptionnel. Il y a le trio au milieu qui fait un match exceptionnel. Kabaï, Matuidi, Pogba. Et là, tu pars pour des années. Avec eux. Il y a Mamadou Sakho, donc c'est la belle histoire, même si, bon, bah, ça, elle est pas, la suite de sa carrière en bleu est quand même pas au niveau de
ces espoirs-là.
Mais t'as le match parfait parce que tu marques tôt, ton avant-centre te donne deux buts d'avance, il y a l'Ukrainien exclu. On avait pris 2-0 en Ukraine. Hein,
2-0, c'est ça.
Donc, ouais, en effet, match fondateur, c'est marrant qu'un match de qualif comme ça.
Bennett, t'étais au stade?
Ouais, j'étais au stade, c'était rare et effectivement, j'ai senti cette ambiance. C'était vraiment un super moment. Pour revenir sur ce que disait Simon par rapport à ce que ça a impliqué par la suite, oui, on sort Nice-Na 2010, Laurent Blanc, pas terrible, l'Euro 2012, voilà. Et puis ça a été fondateur aussi, et ça a été, pour certains, ça a été la fin. Nasri, il n'est plus jamais revenu en équipe de France, hein, il a joué le match aller, il ne le met pas au match retour, il ne le sélectionne pas à la Coupe du Monde.
C'est vrai, t'as raison.
Et c'est le début de Deschamps qui prend des signaux forts dans la construction de son groupe. Il a ses titulaires et son groupe. Ceux qui ne sont pas titulaires, quel rôle ils vont avoir,
vivre ensemble pendant... Koscielny qui faisait
exactement,
un peu débat.
Pendant un mois, quand tu vis ensemble, est-ce que tu acceptes d'être remplaçant, quel est ton statut, etc. C'est aussi ça. Et effectivement, derrière, je pense que ce match retour-là a eu d'énormes conséquences positives pour l'avenir.
L'avenir de Deschamps.
Après, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, en off, c'est peut-être aussi le fait d'avoir ce sentiment-là de déjà-vu en 93. Tu le soulignais. Et tu te dis, ah non, match retour, on va perdre, ça va être la même chose, on va être dégoûté, t'es en 2-0, c'est mort, match retour, vas-y, c'est la même équipe.
Oui, tu veux dire, non, c'est un match qui a réparé les blessures, peut-être.
J'ai l'impression, et c'est pour ça que le public derrière, bam, ça a suivi. Mmh. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et
si on avait peur de revivre France-Bulgarie.
Exactement, parce que si tu perds ce soir-là, c'est la première fois que tu vas pas au mondial depuis justement 94. Donc, ça ravive forcément les mauvais souvenirs.
Non, mais en plus, il y avait le côté, on va pas aller au Brésil, à la Coupe du Monde, au pays du foot, quoi. On n'est pas invité à ce truc-là. Mais est-ce que c'est pas l'un des matchs les plus forts en termes d'émotion de l'histoire de l'équipe de France? Il y avait un sondage en 2016 qui disait que, en 2016, on n'avait pas encore été à nouveau champion du monde derrière, mais qui disait que derrière les deux finales remportées en 98 et en 2000 et Séville 82, c'était peut-être le match en termes d'émotion qui nous avait amené le plus haut. Mais franchement, on le met dans il est dans le top 10.
Il n'y a pas que les finales, hein, l'émotion, le Paraguay en 98, le 8.
Evra avait dit qu'à la finale de l'Euro 2016 au Stade de France, il n'y avait pas eu une aussi grosse ambiance que contre l'Ukraine.
C'est possible.
Mais c'est possible.
Franchement, ce soir-là, il y avait le feu.
C'était incroyable.
C'était un stade de club ce soir-là.
Il s'est passé un truc irrationnel dans le stade ce soir-là.
La fédération avait bradé les places pour ce France-Ukraine.
Il y avait des drapeaux partout.
Ce soir,
c'est des actes fondateurs de la fédération.
T'as un drapeau ?
Ouais, je crois.
Et il y avait aussi des actes fondateurs du management de Didier Deschamps, faire des choix forts. On a parlé de Nasri, on a Abidal aussi qui est sorti de la sélection à partir de là. Et c'est des choix forts de Didier Deschamps qui les assume. Et on connaît le parcours derrière. Donc évidemment que ce match ce soir-là, c'était pas gagné d'avance qu'en Ukraine, tu t'es un peu fait balader. Ouais. Ça montre et ça part de là, cette histoire.
C'est le souvenir d'une dernière galère. C'est la dernière fois qu'on a galéré, en fait, avec l'équipe de France. C'était Didier Deschamps, donc, qui a réussi derrière un sans faute à la tête des Bleus, en tout cas pour les qualifications. On revient dans un instant, les amis, dans les grandes gueules du sport. Le vestiaire, on va parler de récupération physique et mentale. On va parler de la Coupe Davis aussi. La France dans le tournoi final à partir de mardi. Est-ce que vous allez vous y intéresser? Tout simplement. On revient dans un instant avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.